It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Just right for some kissing, and I mean to kiss me a few. Those girls don't know what they're missing. I've got a lot of living to do. Sizzling steaks all ready for tasting, Cadillacs all shiny and new. Gotta move, 'cause time is a wasting. I got a lot of living to do.
L'artiste que nous allons vous présenter cette semaine est né en 1956 à Brooklyn, New York, et va nous permettre de lancer le débat. Tout au long du XXe siècle, et toujours aujourd'hui, la frontière entre le crooner et le chanteur de jazz a été redessinée, contestée, questionnée par de nombreux musicologues, sans pour autant donner une définition très précise. Notre invité du jour, le chanteur Alan Harris, ne veut pas entrer dans cette querelle sémantique qui l'enfermerait dans une catégorie artificielle et infondée. À travers son dernier album, Black Bar Jukebox, il nous démontre que sa voix délicate flirte avec les deux univers, celui du crooner et celui du chanteur de jazz. Mais quelle est la réelle différence entre ces deux formes d'expression? Faut-il opposer ces deux exercices de style? Alan Harris tente une réponse.
It's a person, usually it's a male. Male who delivers a standard.
Un crooner est une personne, en général un homme, qui interprète un standard de la musique populaire américaine en respectant la mélodie. Il ne s'éloigne pas trop de la composition originale. Il raconte une histoire dans un phrasé très harmonieux qui doit refléter l'humeur de l'auteur. Un crooner doit par ailleurs essayer, s'il y parvient, de plonger son auditoire dans une atmosphère de relaxation et de l'emmener dans un voyage musical qui lui parle. Il faut que la voix du crooner soit agréable et n'irrite pas la sensibilité des spectateurs. C'est tout simplement un conteur d'histoire. Il faut en tout état de cause, faire en sorte que les musiciens qui vous accompagnent sachent donner du relief à votre tonalité vocale. Dans le cas contraire, le public finirait par s'ennuyer. Un chanteur de jazz recherche davantage la rugosité d'un orchestre. Il est un membre à part entière de l'orchestre. Sa voix est un instrument, tandis qu'un crooner se détache de l'orchestre et laisse les musiciens interpréter la bande-son de ses mots. Cela peut d'ailleurs être dérangeant pour un crooner lorsqu'un orchestre trop swing prend le dessus. Dès lors, il se sent en parfait décalage face à des musiciens trop volubiles ou généreux. Le crooner, dans ce cas, devient aux yeux des spectateurs un chanteur un peu ringard, sans grande originalité face à des musiciens de haute volée. C'est la raison pour laquelle j'essaye d'évoluer dans deux univers, celui du crooner et celui du chanteur de jazz. Je suis un chanteur de jazz, mais j'aime aussi jouer les crooners, car à partir du moment où vos musiciens vous suivent au doigt et à l'œil, ils élèvent votre interprétation et vous identifie comme un vrai conteur d'histoire.
They elevate the crooning style. They make it more of a storyteller.
I'm just a little bit scared. I think I've gone too far. A little bit scared. The words I said were harsh. So now I sit so lonely and so blue. I'm scared to know my world does not have you. I'm just a little bit scared. You've been away too long. A little bit scared. So now it seems you're gone. I'm scared to think another's holding you. I'm scared to know my world does not have you.
Si la différence entre un chanteur de jazz et un crooner est infime, pourquoi donc avoir inventé des appellations qui les distinguent? Et d'ailleurs, à quand remonte cette distinction?
I think it was invented during the war, World War II.
Je pense que le terme crooner a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant longtemps, les big bands faisaient appel à des chanteuses lors des tournées américaines. Elles étaient souvent jolies, charmantes, séduisantes et apparaissaient l'espace de 3 ou 4 chansons. Le reste du concert, elles se contentaient de sourire comme si elles vendaient des produits cosmétiques pour une publicité télévisée. Les chanteurs ont progressivement exprimé leur désir d'apparaître à leur tour devant de grands orchestres. En dehors des pièces de vaudeville, peu d'hommes se donnaient en spectacle à l'époque. C'est ainsi qu'un type comme Frank Sinatra est venu proposer ses services à un grand chef d'orchestre comme Tommy Dorsey. Certes, Sinatra n'avait pas les charmes d'une jeune fille en fleurs, mais il avait une voix exceptionnelle. À son tour, il s'est retrouvé devant un grand orchestre à interpréter quelques chansons pour un public conquis. C'est ainsi qu'est né le statut du crooner. Heureusement, Frank Sinatra et Tony Bennett ont su dépasser ce rôle ingrat de chanteur pour dames et sont devenus de vraies personnalités à part entière. Mais voilà d'où vient le terme crooner. Il fallait donner une identité au chanteur qui intervenait brièvement pendant les grands concerts swing de l'âge d'or du jazz. Comme il ne savait pas jouer d'un instrument, il fallait, comme pour ces dames, leur donner une visibilité. Ils interprétaient donc quelques chansons avec passion et existaient aux yeux du public. C'est ainsi que sont nés les crooners.
Are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young.
S'attaquer à de grands standards de la musique populaire américaine est un vrai défi pour un chanteur. Inévitablement, il sera comparé à ses aînés et parfois boudé par les puristes ou les gardiens du temple. Mais Alan Harris garde la tête froide et analyse sa situation avec modestie. Le public peut être très dur quand vous vous autorisez à sortir du cadre habituel du jazz. Si vous avez le toupet de vous écarter de la grande tradition insufflée par Frank Sinatra, Tony Bennett ou Louis Armstrong, vous avez intérêt à être irréprochable ou à avoir su développer une identité très personnelle. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Ce que mes aînés ont créé est si imposant qu'il faut avoir du cran pour se mesurer à eux, sans compter les orchestrateurs de poids qui les ont accompagnés. Je pense à Nelson Riddle, Quincy Jones, Duke Ellington, ce sont des géants et ça peut être un poil intimidant parfois. Vous avez alors deux solutions, ou vous étudiez à fond leur répertoire et essayez d'y trouver votre voix personnelle, ou vous les imitez. Eh bien honnêtement, je suis aujourd'hui à la lisière de ces deux options.
It's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you.
Encore une révérence à l'un de ses aînés, Alan Harris interprète Love, immortalisé par Nat King Cole en décembre 1964. Vous l'aurez compris, notre invité attache beaucoup d'importance au patrimoine et à l'histoire de ses ancêtres. Mais il y a une bonne raison à cela. Alan Harris.
Well, first of all, I am a man of color.
D'abord, n'oubliez pas que je suis un homme à la peau noire. J'ai donc grandi dans un environnement social confronté quotidiennement aux conséquences de l'esclavage. Mon arrière-grand-mère et sa famille ont vécu la ségrégation de manière très violente. Ma mère est originaire de Caroline du Sud et a choisi de déménager à Harlem, au nord, pour tenter de vivre une autre vie. Là, elle a découvert le mouvement Harlem Renaissance. Elle a eu l'opportunité de s'inscrire dans des écoles d'art où blancs et noirs pouvaient se côtoyer, ce qui était impossible dans le sud des États-Unis. Je suis donc le fruit de cette vie tourmentée qu'ont connue mes aïeux. Très tôt, mes parents m'ont appris qu'il fallait connaître son histoire pour savoir où on veut aller. Et plus je me passionne pour mon histoire, plus je réalise que nous étions et que nous sommes une communauté courageuse et fière. Nous avons su braver les obstacles et créer une musique originale tout en gardant le sourire, tout en étant altruiste et sans amertume. C'est une chance incroyable d'avoir ces qualités humaines là, et je tiens à garder cela en mémoire.
I try to mind that inside myself.
Je vous le disais en début d'émission, Alan Harris est né en 1956 à une époque où la ségrégation raciale était encore très féroce aux États-Unis, renforcée par une atmosphère de délation née d'un mouvement politique extrémiste, le McCarthyisme, du nom du sénateur républicain Joseph McCarthy, qui considérait que tout citoyen américain de gauche ou progressiste était forcément un allié des communistes. En pleine période de guerre froide, cette vision très étriquée de la politique eut pourtant beaucoup d'écho dans la société. À tel point que certains artistes ou journalistes furent accusés d'espionnage pour le compte des soviétiques et condamnés à de lourdes peines de prison. Enfant, Alan Harris a forcément entendu parler de cette chasse aux sorcières institutionnalisée, et lorsqu'on lui a proposé en décembre 2014 de participer à un spectacle de musical consacré à cette décennie effroyable, son âme d'historien et ses souvenirs d'enfance l'ont convaincu qu'il fallait accepter cette proposition. C'est ainsi qu'Alan Harris fut l'un des rôles-titres de Café Society Swing, une comédie musicale qui narre la destinée de musiciens dans un club de jazz légendaire, le Café Society, un espace de liberté où blancs, noirs, artistes de toute confession, politique ou religieuse, pouvaient se retrouver en toute quiétude et échapper aux pressions psychologiques et sociales. Alan Harris nous en dit plus.
There was a dark moment in the arts in America where there was a right-wing faction.
Il y a eu une période très sombre dans l'univers de l'art aux États-Unis durant les années 50. Les partis de droite les plus extrémistes, qui au passage pourraient bien revenir en force de nos jours, considéraient que l'idéologie américaine devait être exprimée d'une certaine manière. Cette façon de penser a ruiné la vie quotidienne de nombreux artistes. Une liste noire avait été établie qui recensait les défenseurs progressistes des partis de gauche. Dès que vous étiez identifié politiquement, vous ne pouviez plus travailler sereinement. Des acteurs ont dû prendre des pseudonymes pour ne pas se faire remarquer. Des compositeurs ont signé leurs œuvres sous un autre nom pour ne pas être repérés, etc. Le Café Society, le fameux club qui a inspiré le spectacle auquel j'ai pris part récemment, accueillait tous ces artistes considérés comme renégats et leur permettait d'exprimer leur art en toute liberté. Ainsi, à cette époque, est né un mouvement artistique original et inédit, insufflé par des musiciens, comédiens, acteurs, auteurs, écrivains, qui pouvaient réellement baisser la garde et dévoiler leur vraie personnalité. La pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué il y a peu évoque justement ce bouillonnement artistique clandestin. Certaines grandes figures de l'épopée des musiques noires ont débuté dans ce club, le Café Society. Je pense à Billie Holiday ou Duke Ellington. Ils n'avaient pas d'autre lieu pour pouvoir développer leur talent et montrer leur vrai visage. Quand Duke Ellington se produisait en ville, il jouait une musique pour un public blanc qui ne connaissait pas sa vraie valeur. Au Café Society, il tombait le masque et jouait une musique qui était encore taboue à l'époque. Malheureusement, lorsque les représentants des partis de droite ont découvert ce lieu, ils ont envoyé leurs gros bras pour détruire cet espace de création et chasser tous ces artistes noirs de leur refuge. Ils ont emprisonné la plupart d'entre eux, ils ont fait en sorte que leur carrière ne puisse pas redécoller. Ils ont annulé des contrats cinématographiques et des sessions d'enregistrement. C'était une période terrible, vraiment terrible. Et ceux qui n'ont pas eu la force psychologique de se relever sont devenus des vagabonds ou se sont suicidés. C'était une période noire.
It's a very dark period. Dark.
Mm-hmm.
20 avril 1939, Billie Holiday enregistrait une œuvre audacieuse pour l'époque, Strange Fruit, qui dénonçait le lynchage des Noirs dans le sud des États-Unis. C'est justement sur la scène du Café Society qu'elle interpréta pour la première fois cette chanson devenue légendaire. Preuve que ce club fut un lieu frondeur et une scène essentielle pour la culture noire, comme l'Apollo de Harlem, que notre invité Alan Harris a arpenté dès sa plus tendre enfance.
As a child, I was able to get in there free for matinees. And plus, my aunt had a restaurant.
Quand j'étais gamin, je pouvais assister à des concerts gratuitement. Ma tante tenait un restaurant juste derrière l'Apollo. Je me sentais donc en sécurité. J'ai vu Jimmy Smith, le grand virtuose de l'orgamon B3. J'ai vu Sarah Vaughan, Duke Ellington, les Temptations, etc. J'ai vu tous les artistes qui se produisaient à New York de la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70. J'ai vu le meilleur de ce que l'Amérique noire pouvait produire. L'Apollo était la dernière étape des artistes en tournée. Quand ils avaient écumé les scènes américaines pendant des mois, leur récompense était de jouer dans ce qu'on appelait le Carnegie Hall du peuple noir. Seuls les meilleurs instrumentistes avaient le privilège de pouvoir se produire sur cette scène. Quelle que soit votre discipline, que vous jouiez le blues ou chantiez des airs d'opéra, l'Apollo était le lieu de rendez-vous des meilleurs artistes noirs. C'était un peu la vitrine de ce qu'était et de ce que pouvait devenir la musique populaire américaine. Nous avions dans cette salle la possibilité de faire scintiller notre culture dans une Amérique encore très blanche. Il fallait juste persévérer pour gagner le droit de jouer à l'Apollo et peut-être un jour être invité à la télévision par Ed Sullivan, le présentateur vedette de la télévision américaine de l'époque. Je le répète, l'Apollo, c'était notre Carnegie Hall.
Here I stand, watching the tide roll out, so all alone and blue, just dreaming dreams of you. I watched your ship as it sailed out to sea, taking all my dreams and taking all of me.
Revenons à notre sujet initial que nous évoquions avant de nous laisser emporter par les digressions historiques et passionnantes d'Alan Harris. Nous parlions des crooners. Il y a 5 ans est apparu sur les scènes internationales un nouveau chanteur qui, sans crier gare, a réconcilié les amateurs de jazz avec un art vocal jugé désuet et sans saveur. Ce prodige s'appelle Gregory Porter. Alan Harris nous donne son sentiment sur son nouvel ami et peut-être concurrent potentiel.
He's a wonderful artist. I think he is one of those rare exceptions.
C'est un artiste merveilleux. Il fait partie de ces rares chanteurs qui surgissent d'on ne sait où et que l'on ne peut comparer à personne. Il est une exception, le genre de personnage que l'on rencontre une seule fois dans une vie. C'est un peu comme une course de chevaux. Soudain, celui que l'on n'attendait pas remporte une course prestigieuse. Entendez-moi bien, je ne compare pas Gregory Porter à un cheval, je ne me permettrai pas, c'est un ami. Je dis juste qu'il a ce petit plus qui le distingue des autres chanteurs. Il a ce don indéfinissable que l'on ne peut reproduire. Rares sont les exemples d'artistes qui ont eu cette qualité. Ça ne s'explique pas, ça se savoure.
You don't explain it, you just enjoy it.
Somebody told me get over it. It's like water under bridges that have already burned. They say it gets better, it gets easier. The memories start to fade, and sad songs that always play you start to hate. Do you remember days we used to spend? Memory so strong it keeps me from moving on.
Water Under Bridges, Gregory Porter en 2013 sur l'album Liquid Spirit. Ce que nous n'avons pas précisé, c'est que Gregory Porter et Alan Harris se partagent le même producteur, Brian Backus. L'album d'Alan Harris deviendra-t-il un best-seller comme celui de Gregory Porter? Alan Harris connaîtra-t-il la destinée glorieuse de Gregory Porter? Réponse amusée de l'intéressé.
My ego says yes, but the subtleties and my modesty in me is going to just lay back a little bit and say this.
Mon ego surdéveloppé aurait tendance à dire oui, mais ma modestie naturelle me ramène sur terre. Connaissant l'exigence de mon producteur, qui est devenu un bon ami, je sais qu'il ne se serait pas investi à ce point sur mon album s'il n'avait pas senti qu'il pouvait en tirer quelque chose. Et je ne parle pas ici d'argent, je parle de ses convictions artistiques. Le simple fait d'avoir accepté de travailler avec moi est une marque de respect et de confiance. Nous verrons bien où nous mène ce projet. Pour le moment, nous démarrons à peine cette aventure musicale commune, et les premiers échos me semblent bons. Il a visiblement eu de l'intuition. Il a le don de révéler les différentes facettes d'un artiste et de le faire progresser. Nous verrons si je fais partie de ces artistes-là. Alan Harris est un vrai grand crooner ou chanteur de jazz, appelez ça comme vous voudrez. Mais il est aussi un passionné d'histoire, à la recherche de ses origines ancestrales. Quand nous avons évoqué l'Afrique, le cœur de l'humanité, à la fin de notre entretien, ses yeux se sont éclairés et sa déclaration d'amour pour la terre de ses ancêtres fut sincère et sans équivoque.
I love to sing in Africa. I would. It's a place where
j'adorerais aller en Afrique. Je ne connais ce continent qu'à travers les témoignages de certains de mes proches qui s'y sont rendus, notamment ma femme. Mais je sais que mon héritage afro-américain finira par m'y conduire. Et malgré l'image souvent négative que l'on donne des sociétés africaines, j'aimerais beaucoup découvrir ce continent. Le rythme que j'ai en moi, l'âme africaine que j'ai en moi, prennent leur source sur la terre d'Afrique. Je tiens d'ailleurs à préciser à vos auditeurs la chose suivante. Je fais partie de votre monde, un monde qui appartient aux Africains. Le don que j'ai développé ne m'appartient pas en tant qu'individu. Il doit être partagé. Et j'espère sérieusement que je pourrai le partager avec vous en personne. D'ici là, restons en contact. Vous à travers ma musique, moi à travers votre enseignement. Car grâce à vous, j'ai compris que nous avons beaucoup de choses en commun. Cela commence par le sourire et l'entente cordiale.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Yeah.
But don't change your hair for me. Not if you really care for me. Stay funny, Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. My, my, funny Valentine, sweet little Valentine. You make me smile with my heart.
My Funny Valentine, immense standard de jazz interprété jadis par des artistes de renom comme Chet Baker, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald entre autres, et revitalisé en 2015 par Alan Harris sur son nouvel album Black Bar Jukebox que je vous recommande chaudement. J'espère que cette plongée dans l'univers des crooners vous aura passionné et je vous signale que vous pourrez applaudir Alan Harris le 19 septembre prochain à condition de vous rendre en Californie pour le festival de jazz de Monterey. Merci à Nathalie Laporte qui réalise en chantant cette émission chaque semaine. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.
Géopolitique, le débat.